Merci d'être venu aussi nombreux pour cette première conférence sur le jeu de rôle cette année, puisqu'il y en aura une demain aussi sur le GN. Le thème aujourd'hui va être la place du héros dans le jeu de rôle et dans la littérature. Alors pour cela, nous avons Isabelle Perrier, que je laisse te présenter rapidement.
Alors, je me présente. Donc, j'ai un pied dans le jeu de rôle, un pied dans la littérature. Dans la littérature, parce que je suis professeure de littérature au lycée. Et par ailleurs, je fais de la recherche sur la littérature et sur les littératures de l'imaginaire. Et j'ai un pied dans le jeu de rôle, puisque je fais partie de l'ancienne garde. J'ai bossé pour Feu, la boîte d'édition Multisim, donc sur les gammes de Néphilim, Révélation et Dagone. J'ai travaillé sur Casus Belli, ancienne génération, et là, récemment, donc je suis directrice littéraire pour les sombres projets sur le projet Mondblade, et j'ai travaillé à Néphilim 4. Voilà.
Donc ensuite, nous avons Stéphane Gallo.
Bonjour. Allô, 1-2. Parfait. Donc bonjour, Stéphane Gallo. De mon côté, je suis co-rédacteur en chef de Casus Belli, qui est le magazine de la culture rôliste en France aujourd'hui, concurrent de Dissident, qui est un très bon magazine, mais Casus Belli est le magazine grand public, disons. Je suis aussi chroniqueur ludique sur la chaîne Planète Plus Nos Limites, où je travaille dans l'émission Plus ou Moins Geek et où j'animerai à partir du 6 décembre une chronique consacrée aux jeux de rôle, jeux de plateau, qui passera à peu près une fois tous les 15 jours. Et je travaille aussi comme auteur pour Les 12 Singes, pour Le 7e Cercle et pour Les Sombres Projets, ainsi que comme traducteur pour Black Book Edition.
Ensuite, Julien Elbruck.
Bonjour. Donc, moi, j'ai un pied également dans le jeu de rôle et un autre dans la littérature. J'ai eu l'occasion de travailler sur différentes gammes au 7e Cercle, chez Sans Détour, notamment l'Encyclopédie de la Brigade Chimérique, chez Jeune Doe avec Warzo. Et j'ai écrit quelques nouvelles à droite à gauche. Je suis anthologiste, c'est Rivière Blanche. Et j'ai écrit différents courts romans sous la forme de fascicules.
Lionel Davoust.
Bonjour. Alors, quelle surprise, j'ai aussi un pied dans le jeu de rôle et un pied dans la littérature. Dans la littérature, puisque j'écris des bouquins, Léviathan, qui est une série de thrillers matinée de fantasy urbaine, et l'univers des Vanégyres, par exemple La Volonté du Dragon, qui est de la fantasy steampunk. Niveau jeu de rôle, j'en fais depuis toujours. Et puis j'ai fait partie des fondateurs des éditions Extraordinary World Studio, qui éditaient notamment Archeos et Circus, où je participais notamment au système. Puis, sous divers pseudos, j'ai fait aussi des suppléments fans officieux pour différents jeux de rôle que j'aimais bien aussi.
Et enfin, Romaric Briand.
Le meilleur pour la fin, c'est ça?
Exactement.
Animateur du podcast de la Cellule, pour ma part. J'ai aussi un pied, non pas dans la littérature, mais dans la philosophie, en fait, puisque je suis auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Sens, qui met la philosophie au centre du jeu de rôle. Voilà, en gros.
Donc, pour commencer, la première question d'aujourd'hui, ce sera: qu'est-ce qu'un héros? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui veut commencer, ou... Isabelle, peut-être?
Bon, alors, je me dévoue. Moi, j'ai fait ma thèse... Enfin, ça parle, entre autres, du héros. Alors, je vais essayer de ne pas faire un long cours universitaire et pénible. Alors, le héros, c'est plusieurs choses. Donc, à l'origine, c'est les demi-dieux, donc fils ou fille de dieu et d'humain. En général, c'est pris aussi, c'était les héros grecs des épopées. Le héros, c'est aussi maintenant le personnage principal. Et je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que c'est un personnage qui a quelque chose d'un peu plus que les autres. Ça me paraît.
Romaric, je voyais que tu voulais...
Non, sur le héros, moi, j'ai pas de définition particulière, d'autant plus que dans le jeu de rôle, en fait, le héros est très... Comment dire? Il va suivre en fait les différents courants. C'est-à-dire, il va suivre le cinéma, il va suivre la littérature. En fait, c'est pas à nous, en tant que rôlistes, de définir ce qu'est le héros. C'est plutôt à la culture en général de le faire. Et nous, en fait, on va s'adapter, tout simplement. Donc, je laisse les littéraires présenter ce qu'est le héros.
C'est pour contribuer sur la définition du héros, c'est pas une définition, mais c'est une acception qui est moderne et qui a été notamment fixée par Campbell, définie de cette façon-là, et qui est le héros, c'est aussi, alors c'est pas que ça, mais c'est dans la culture populaire actuelle, c'est un peu la façon dont l'archétype s'est un peu cristallisé. C'est le héros, c'est quelqu'un qui fait un voyage. Donc c'est quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort pour accomplir de façon très vaste une quête qui peut être une quête personnelle, qui peut être d'aller faire quelque chose à un endroit. Et ce voyage-là va le transformer à tel point qu'il va devenir quelque chose de différent et que quand il reviendra dans sa zone de confort, il se rendra compte qu'elle ne lui correspond pas. Donc c'est l'histoire d'un changement, ce qui finalement est, comme toutes les bonnes définitions, hyper vaste. Et finalement, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'il y a quand même beaucoup d'histoires en littérature qui sont transformatives. Mais c'est notamment quand on regarde c'est très présent notamment chez les scénaristes dans le cinéma américain à Hollywood. C'est une figure, alors c'est pas une définition, mais comme beaucoup de ce qui se fait va en retour cristalliser ce qu'on imagine. Cet archétype du changement et de la quête est quelque chose qui est très, très présent dans la culture populaire, très grand public aujourd'hui.
Julien,
Oui, enfin moi je souscris au fait que c'est un personnage qui a un petit côté supérieur, qui a quelque chose que les autres n'ont pas, qui va lui permettre de transcender la réalité, d'agir en fait à son corps défendant des fois, à son initiative sur son environnement et prendre part ainsi à l'histoire. Après, ce côté ce petit plus peut varier. Ça peut être du super-héros où là, pour le coup, c'est quelqu'un qui va avoir d'énormes pouvoirs ou une capacité d'intervenir très très forte, ou un individu lambda. Mais quand on commence une histoire, en particulier dans le jeu de rôle avec des individus lambda, il finit toujours quand même par y avoir un petit truc en plus qui va les faire sortir du rang, quoi.
C'est-à-dire que plus qu'un être supérieur ou qui dispose de quelque chose qui le place au-dessus de la condition commune, c'est quelqu'un qui se met à l'écart et qui est mis à l'écart soit par les événements, soit par sa condition, soit parce qu'il souhaite accomplir. C'est quelqu'un qui, dans tous les cas, se distingue de la foule à un moment pour une raison quelle qu'elle soit. Et le anti-héros peut se distinguer d'ailleurs en agissant au contraire de ce qu'il devrait faire, contrairement au héros qui, lui, est plutôt un être qui véhicule des valeurs morales.
Et quelle va être la différence entre un héros de littérature et un héros de jeu de rôle ?
Là, je pense qu'il n'y a vraiment aucune différence, en fait. C'est le héros de jeu de rôle, c'est juste qu'il est contrôlé par un joueur dans le cadre du jeu de rôle. Et encore pas toujours. Parfois, il est contrôlé par plusieurs joueurs. Donc, il n'y en a aucune, clairement.
Même pas au niveau des motifs, par exemple ?
Je crois pas.
Si on reprend le héros de l'Antiquité grecque, qui est quand même très...
Là, tel qu'il l'a défini tout à l'heure, enfin tel que Stéphane et Julien l'ont défini tout à l'heure.
Et tel qu'Isabelle l'a défini, surtout pour le héros de l'Antiquité grecque.
Ouais, mais on n'est pas dans l'Antiquité grecque en termes de jeu de rôle. Enfin, je crois pas. Justement, le héros dans le jeu de rôle, c'est juste un personnage contrôlé par un joueur. Et après, il peut être tout à fait lambda, tout à fait ordinaire. Enfin, à mon avis, hein, à mon sens, il n'y a pas eu.
Dans le jeu tout de rôle, autant qu'en littérature. En littérature,
oui, voilà, c'est ça, un genre, exactement. Au contraire, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une grande différence.
Je pense qu'il y a une légère différence sur le fait que... alors, je suis tout d'accord dans l'ensemble. Pour moi, il y a juste un léger point particulier, c'est que le héros de jeu de rôle est forcément joué par quelqu'un. Il est forcément joué dans un groupe de gens qui se connaissent. Et donc, par essence, leur personnage, aussi détestable puisse-t-il être, il y a des joueurs qui adorent jouer des salopards finis, sera toujours, pour le joueur et pour les gens autour de la table... Il y aura toujours un intérêt certain, alors qu'on peut avoir des anti-héros en littérature, mais les anti-héros en littérature ont toujours un côté attachant et sympathique, parce que sinon le lecteur a du mal à adhérer à un salopard absolu, alors qu'en JDR ça peut se faire.
Enfin, je pense qu'en JDR la personne qui incarne un salopard absolu finit par se lasser aussi, peut-être éventuellement, c'est-à-dire que le héros ait des failles et des faiblesses et des côtés négatifs, de là à vraiment jouer le personnage sombre absolu sans aucun point d'attache, ça peut aller peut-être le temps d'un scénario, d'un one shot comme on appelle, un truc avec un début, une fin très bref, mais je pense que sur du long terme ça peut être un peu lassant.
Il y a une contrainte qui est
sous... Il y a un élément sur lequel simplement je voudrais répondre, c'est que je suis pas d'accord. En littérature, on peut aussi avoir un anti-héros qui est un salaud absolu, voire un sale con, et ça peut fonctionner. C'est très rare, c'est vraiment l'exception, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne, mais il va avoir des qualités attachantes.
Non, vraiment pas. Je pense à Inexistence, le héros est juste un jeune con, et je pense à des romans de Palahniuk comme Survivant, où pour le coup, le héros est vraiment un sale con du début à la fin. Il n'y a même pas d'évolution où il va se bonifier. Je veux dire, au contraire, il va de pire en pire. Mais juste... ça, c'est possible via le média de la littérature.
C'est pas...
probablement pas en jeu de rôle.
Ouais, c'est pas très jouable. C'est pas jouable très longtemps. En fait, je pense qu'en jeu de rôle, le côté le plus badass qu'on peut avoir au niveau des personnages, ce sera vraiment, je sais pas moi, la Dexter ou Sons of Anarchy, c'est-à-dire des personnages des fois un peu ordures sur les bords, très borderline, mais qui gardent quand même un fond auquel le personnage s'attache et va avoir plaisir à le faire évoluer, à le mettre en scène.
Romarie ?
Il y a quelque chose de sous-jacent de tout ce que vous êtes en train de dire et qui est fondamental pour le jeu de rôle, c'est qu'en jeu de rôle, on effectue son personnage devant d'autres joueurs. Donc on a une espèce de contrainte de table, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement que la table ne fasse pas une scission, qu'il n'y ait pas une scission. Donc du coup forcément on ne peut pas jouer le gros salaud, parce que sinon il va y avoir une scission au sein de la table, le gros salaud va devenir le méchant, les autres vont s'isoler, enfin ça ne va pas fonctionner. Donc il faut forcément qu'il y ait une entente avec les autres personnages. Et ça déjà c'est une grande... C'est, en fait ça y est, on l'a notre différence avec la littérature ici. C'est qu'en littérature on peut faire, effectivement le romancier peut choisir de mettre en scène un gros salaud. Là, on a une team de PJ. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que, évidemment, des univers comme Star Wars, où il y a une team de PJ, on va dire, colle. Des univers comme Scooby-Doo, il y a une team de PJ, ça colle. Mais par contre, ça va être vachement difficile, par exemple, de 1984, par exemple. Ça va être super difficile de l'adapter en jeu de rôle, parce qu'on a un seul personnage qui subit la coercition d'un monde entier. Ça va être beaucoup plus difficile. Quoique, avec des formes plus anarchistes de jeu de rôle, où il n'y a pas forcément un maître de jeu et des joueurs, on pourrait peut-être... atteindre ce genre de choses. Je pense à des jeux comme Dirty Secret, par exemple, sorti récemment à la boîte à eux, où là, finalement, le MJ, c'est le joueur. Et les autres joueurs tout autour de la table vont être amenés à lui mettre des péripéties dans les pattes et d'autres personnages. On peut peut-être faire ça comme ça. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a une différence entre le héros de littérature et le héros de jeu de rôle ? Oui, si on prend le jeu de rôle dans son acception classique avec un maître de jeu et des joueurs, évidemment, il va y avoir des différences comme celles qu'on vient de citer. Mais le jeu de rôle aujourd'hui est en train d'évoluer et il y a beaucoup de nouvelles formes de jeux qui, à mon avis, s'adaptent à la littérature au cinéma. Voilà.
Mais alors, quelles que soient les qualités intrinsèques de Dirty Secrets, qui est un très bon jeu, je ne le reconnais pas en tant que jeu de rôle, pour ma part. On est passé dans autre chose. Maintenant, il y a un autre point, c'est que je pense que la première différence qui se fait entre le jeu de rôle et la littérature, c'est que le héros de jeu de rôle est nécessairement un héros qui agit. Puisque les joueurs autour de la table ne vont pas rester à décrire les pensées de leur personnage, c'est un héros qui est agissant. Alors qu'en littérature, on peut se permettre d'avoir une introspection intérieure qui est l'essentiel de l'œuvre.
Ça, c'est vrai.
Isabelle ?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, c'est ce qu'on appelait avant, enfin, qu'on a parfois appelé le pacte rôlistique, c'est-à-dire qu'il y a un pacte qui se crée entre les joueurs qui sont autour de la table.
Le contrat social, on appelle ça maintenant.
Ou le contrat social.
C'est le terme le plus à la mode.
Ouais. Ouais, ça fait un peu Rousseau quand même.
Oui, c'est complètement
Rousseau. Non, mais je l'entends bien, mais voilà, il y a un pacte, on est là pour jouer, et effectivement, celui qui fait le gros salaud, qui tue tout le monde, qui respecte pas, il respecte pas le pacte, et effectivement, la partie va partir dans le mur, et très probablement le groupe de copains aussi qu'il y a derrière.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je pense qu'il y a aussi une différence entre le héros de littérature et le héros de jeu de rôle, enfin, qu'on incarne, c'est que le héros de jeu de rôle, on l'incarne et on joue avec. Donc parfois on n'est pas limité, mais on est retenu par une contrainte absurde qui est de survivre, alors que le héros de littérature s'en fiche.
Je peux mourir, lui.
Alors,
de survivre au sens où on n'a pas forcément envie de changer de personnage, on veut pas perdre son XP. Enfin, parfois.
Il y a des jeux dans lesquels, au contraire, l'idée d'amener le personnage vers son destin et non vers une progression en termes de niveau est possible, comme Senga, où le but est vraiment de créer une histoire au personnage. Donc là, c'est un cas particulier. Je crois qu'il y a une autre différence que personne a pointé ou osé pointer depuis le début, c'est que le héros de littérature a pour obligation quand même d'être divertissant et de faire des choses intéressantes. Or, il est des parties de jeu de rôle où la partie va intéresser les personnages et les joueurs autour de la table, mais ça n'intéresserait absolument personne d'autre. Et il y a une différence là, je crois, qui est majeure. C'est-à-dire
absolument.
Que le jeu de rôle est fait pour l'amusement des personnes qui participent à la partie et ça se limite à ça. Quand il y a une obligation de réussir quelque chose de potentiellement intéressant pour tous dans la littérature.
Je pense qu'il y a une le problème du terme héros, c'est que, comme ça a été dit au tout début, c'est que c'est un terme avec quand même des facettes multiples. C'est-à-dire qu'en littérature et dans tout récit, je ne sais plus qui disait qu'un héros, je crois que c'est toi, Romain, qui véhicule des valeurs et morales. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure.
C'est peut-être Isabelle.
D'accord, ouais, mais enfin, pour moi, je pense que c'est un aspect très important. C'est-à-dire qu'en littérature, c'est vrai qu'on a tendance à considérer le héros, c'est le personnage central. Mais un héros, au sens strict, en tout cas, je pense, c'est justement quelqu'un qui va véhiculer des valeurs positives. Alors qu'on peut parfaitement, notamment, par exemple, dans les romans de Palahniuk, on peut avoir des personnages qui sont centraux, qui sont dans l'histoire, qui sont des protagonistes. C'est-à-dire, ce sont ceux qui agissent dans l'histoire ou ceux autour de qui l'histoire se construit, mais c'est pas forcément des héros. C'est-à-dire qu'une œuvre de littérature peut se construire sans héros, au sens où il n'y a pas à avoir quelqu'un qui va véhiculer des valeurs positives. Alors que
dans il me semble que dans un JDR, globalement, comme le joueur est là pour jouer et qu'il est là pour raconter une histoire avec ses copains et, avec, et qu'il est au centre de l'histoire, il y a forcément une valeur de héros, un aspect héroïque là-dedans qui va le mettre beaucoup plus au centre de l'histoire et on va... Qui va les feux de la rampe vont être beaucoup plus concentrés sur lui, alors qu'on peut avoir des romans sans héros, je pense.
Ça, c'est... moi, ça me fait penser à Orson Scott Card, qui définissait la différence entre personnage principal, héros et personnage point de vue, notamment dans son livre qui porte ce titre, personnage point de vue, c'est personnage et personnage point de vue, personnage et point de vue, voilà. Dedans, il explique quand même que l'anti-héros peut être, enfin, ça peut rester un protagoniste de toute façon. Est-ce que le personnage de jeu de rôle, c'est pas plutôt un anti-héros selon les deux acceptations qu'on peut avoir, celle de personnage qui est pas un héros à la base, ou celle de personnage qui a des motifs mauvais.
Alors là, ouais.
Ça dépend ce qu'on joue, en fait, exactement. Je pense. Hein.
Exactement.
On peut, rien que dans un seul jeu, il peut y avoir l'anti-héros à la Han Solo, le héros à la Luke Skywalker. C'est suivant les choix que fera le joueur lors de la création du personnage ou de l'archétype.
On peut quand même peut-être faire un petit rappel historique pour le jeu de rôle. Il y a quand même différents types de héros qui se sont développés au cours de l'histoire du jeu de rôle. Je pense il y a le premier type de héros, on va dire, c'est le héros vénal, compétiteur, qui a envie d'être le plus fort possible et qui a envie d'acquérir le plus de biens matériels, d'équipements possibles, etc.
Ça, c'est le cogneur de monstres.
Le cogneur de monstres, exactement. Le DPS, le PEX, celui qui veut des points d'expérience et voilà, qui va parcourir son donjon pour augmenter sa puissance. Ça, c'est le premier type de personnage de jeu de rôle qu'on a vu historiquement. Avec,
tu dépeins quand même de manière très négative, etc. Alors que fondamentalement, on peut aussi le voir comme un héros civilisateur à la grecque qui va défoncer les monstres de manière à libérer les hommes et à leur permettre de récupérer le monde sauvage.
Oui, d'accord,
on peut l'interpréter autrement.
Oui, enfin bon, il est quand même dans un donjon, donc dans un lieu isolé. Désolé, mais...
surtout très vénal, en fait.
C'est très vénal.
Il faut être honnête, je fais l'avocat du diable.
Oui, c'est l'avocat du diable, à mon avis. Le deuxième type de héros, c'est le héros explorateur qui va survenir, je pense, avec un jeu comme Cthulhu, qui va arriver plus tard dans les années. C'est finalement le héros, c'est un espèce à ce moment-là de simulacre. Et là, le héros point de vue, j'aimais bien ton truc là. C'est pas mal. C'est un simulacre pour un joueur pour découvrir un univers en fait. Alors, en l'occurrence, c'est celui de Lovecraft, où là, on va être en fait le type qui explore, enfin qui comprend que l'univers qui l'entoure le dépasse complètement et qui va faire différents types de différents personnages pour essayer d'en comprendre de plus en plus. Sachant qu'il s'en fiche qu'il meurt,
c'est
personnage.
De l'anti-progression au contraire. Voilà, il est de plus en plus fou, de plus en plus misérable.
Oui, c'est ça. Et en plus, plus son personnage a de risques de mourir, mieux c'est pour lui parce que ça veut dire qu'il est proche du secret, proche du mystère. Donc il va tuer un maximum de personnages et donc du coup là c'est le joueur, le héros, à l'intérieur par le simulacre de ses personnages.
Le personnage devient simplement un véhicule pour que le joueur découvre le monde.
C'est ça.
Et c'est là que c'est
certainement pas un héros.
Hein,
parce
et certainement pas un héros.
On sait bien que c'est désespérant pour ça.
Le
parfois.
Psychanalyste qui va à l'assaut d'un monstre tentaculaire.
Ouais, le personnage
qui mesure,
lambda, quoi. Voilà. C'est là, il n'a pas de don.
Exactement.
Il n'est pas beaucoup plus fort au combat que le joueur qui l'incarne, probablement.
Mais sa conduite est héroïque parce qu'il entreprend une cause désespérée qu'il est voué à échouer.
Ah, avec un sacrifice, souvent, ouais.
Je vais te dire, il est héroïque parce que surtout, il y a un joueur derrière qui sait que de toute façon, il s'en fout. C'est que de la chair à canon pour aller emmener, pour s'emmener en fait, aux révélations. C'est pour ça. Parce que sinon, ça serait pas
cohérent. Je fais quand même ma petite larme à chaque fois que j'ai un personnage qui me...
Il faut s'attacher quand même, c'est le jeu. Ouais.
Donc Toulouse, c'est pas cohérent. Quoi. Les personnages, ils vont à l'assaut de monstres qui sont bien plus forts qu'eux. Ils le savent. Hein, tu vois ce que je veux dire, on s'en fiche limite de la cohérence. C'est le joueur explorateur, le héros explorateur. On accepte ça et voilà. Et puis, j'ai envie de dire, le troisième type de héros, c'est celui que va introduire Vampire la Mascarade, qui est un héros plutôt destiné à faire des histoires d'amour, des histoires, on va dire, plus... alors bon, des histoires politiques, des histoires de complot politique, d'accord, déjà. Donc c'est en fait plus des histoires de relationnelles, c'est ça que je veux dire.
Non,
c'est...
je pense que la différence se fait avec Vampire. C'est vraiment un genre particulier. On arrive à quelque chose. La première partie, c'est le héros qui va essayer de progresser. On est dans un héros qui va grandir, avancer. Et le personnage principal, l'objet principal de l'aventure, c'est le scénario. L'objet principal du jeu, c'est le scénario. Dans une deuxième dimension, avec des jeux d'exploration, l'objet principal, ça va être la découverte du monde. Et le monde va être au centre de tout.
Absolument.
Dans ce jeu de rôle. Avec Vampire, ce qui apparaît au centre de l'aventure, au centre de l'intérêt des joueurs, ça va être le personnage. Le personnage devient le moteur central de l'action.
C'est ça, exactement. Et donc, voilà, les trois types. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans ces trois types de héros, on a en fait trois démarches de joueurs différentes. Et trois démarches, la première qui va être une démarche narrative, on va créer de l'histoire. La deuxième qui va être une démarche, enfin la première pardon, qui va être une démarche ludiste, le héros vénal. Donc on est en compétition les uns avec les autres, le but c'est d'être le meilleur. Hein. Isabelle, ton perso il est un petit peu pourri, hein. T'as vu le mien il est plus costaud. Ça c'est du ludisme, c'est de la compétition entre joueurs.
Tu viens de faire deux erreurs, tu viens de la tutoyer.
Oh zut, j'ai tutoyé Isabelle, mon dieu.
Et je la soupçonne d'être une sacrée optimisatrice. Donc,
ah ouais, bon.
Non, je...
Donc bon.
Mon personnage
donc,
serait probablement pourri
okay,
à côté.
Que, d'accord, ok. Bon désolé Isabelle pour ces deux erreurs. Et puis enfin, le personnage simulationniste, on va dire, celui qui veut explorer l'univers, voilà, qui va être dans la simulation. Tiens, qu'est-ce que ça fait d'être un chevalier à l'époque de l'Antiquité, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi.
À ces trois typologies, moi j'en rajouterai une quatrième que je sens petit à petit émerger. C'est comment dire, où les joueurs se réunissent pour incarner des personnages dans des ambiances et des jeux très typés, souvent très influencés par la littérature de genre ou le cinéma de genre, oui. Et dans lesquels le but, ça va être vraiment de jouer dans un cadre vraiment défini, identifié, dans lequel on s'amuse avec un peu ces stéréotypes, quitte à les détourner et tout ça, mais on est un peu dedans, quoi.
Ouais. Jouer dans un genre.
Jouer dans un genre.
Oui, c'est ça, finalement, presque plus jouer à être un personnage qui est dans un film de genre.
Voilà.
Harry Potter, voilà.
C'est un style très poreux par rapport aux influences de littérature et de cinéma en particulier, mais c'est dans des univers vraiment typés, avec un focus particulier sur une manière de jouer, un système qui permet d'émuler ses codes, et où c'est l'histoire qu'on va construire tous ensemble qui est le plus important, pas vraiment la progression, l'exploration. Bon, bah, c'est un univers typé, on connaît un peu le monde, et puis voilà, quoi.
C'est un genre qui est apparu avec Cops, je crois, vraiment, qui permettait de jouer des flics comme dans une série de flics, comme dans une série policière classique. Donc vraiment un genre bien particulier qui maintenant s'est ouvert beaucoup vers la SF et le pulp.
Ce qui débouche d'ailleurs pour moi aussi sur une tendance qu'on a de plus en plus en ce moment, qui sont les jeux que j'aurais envie de dire à expérience, qui sont avec des systèmes très particuliers. Pour vraiment qui limite joue avec ses. Il y a le jeu en soi avec la construction de l'histoire et il y a tout le méta-jeu autour qui joue avec les je pense que Marie pourrait nous en parler très bien.
Ah non, mais c'est ton histoire de jeu à expérience. Ouais. Ton histoire de jeu à expérience, ça c'est vraiment intéressant. Mais là, tu vois, c'est le joueur qui est au centre de l'expérience. Tu vois, on limite le héros qu'il incarne. Bon, en fait, le choix du héros qu'on va lui faire incarner est lié à l'expérience qu'on a envie de lui faire ressentir. Tu vois, mais c'est pour ça que j'ai envie de dire que héros de littérature, héros de jeu de rôle, en fait, les deux vont aller ensemble. D'ailleurs, dans le héros que tu signalais tout à l'heure, Julien, il y a cette idée qu'en fait, on va s'adapter à un canon littéraire. Le canon d'Harry Potter, le canon de Star Wars, Tolkien, etc. On va choisir un canon esthétique, littéraire, cinématographique, et puis on va quel effet ça fait d'être Bilbon Sacquet à la Comté, etc. Voilà, c'est ça. Donc c'est lié. Ça me fait penser aussi à ce que disait Olivier Caïra, qui est que le jeu de rôle ne peut émerger dans une société qu'à partir du moment où les membres de cette société ont une culture commune. Et oui, parce que lorsqu'on décrit un vaisseau spatial, si parmi nous il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de SF, il ne sera pas capable d'imaginer ce que ça représente. Bon, j'exagère, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que justement le socle commun est tellement commun que tout le monde est capable d'imaginer un vaisseau spatial. Mais en gros, l'idée, elle est là. Donc, le style, le héros de genre est très facile, parce que comme tout le monde a la même base culturelle, on a tous vu les Star Wars, mettons, autour de la table, c'est très facile de dire, il y a un site, il est devant la porte s'ouvre, pssst. En plus, tu vois, la porte s'ouvre comme ça, attention.
Enfin, cela dit, n'oublions pas qu'il y a le livre de base, qui est un objet qui est commun normalement à tous les joueurs, qui peuvent se partager de manière à être sûr de partager la même expérience, la même vision, le même univers qui leur est à tous donné et proposé.
Ouais. Remarque, tout à l'heure, tu parlais de la théorie GNS de Ron Edwards.
j'ai pas dit GNS. Oui, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça.
T'as quand même dit des choses qui en découlent largement, un peu modernisées. Est-ce que tu voudrais pas en parler un petit peu aux gens?
Mais je suis pas très compétent. Très en fait, si tu veux, à chaque fois que je parle de la théorie GNS, dans le dos, il y a Christophe Buckley, qui est le spécialiste francophone à la question, qui me tape. Il me dit mais non, mais t'as rien compris, etc. Bon, en gros, Ron Edwards va dire, enfin. Grâce aux études qu'ils font sur la forge avec plusieurs joueurs, ils vont essayer de faire une espèce de sociologie de ce que c'est le jeu de rôle, en gros, hein, je schématise. Et ils vont en fait se dire, tiens, les parties qui ne marchent pas, ce sont finalement des parties dans lesquelles les joueurs sont venus avec des envies différentes autour de la table. Premier joueur, il a envie d'être en compétition avec Isabelle. Donc lui déjà, c'est le ludiste. Il a envie d'entrer en compétition avec un deuxième joueur, le narrativiste, on va dire. Enfin, non, alors il n'y a pas de joueur narrativiste, il n'y a pas de joueur ludiste, etc. Mais il y a des moments, en fait, et des phases de jeu où on va être plus amené à créer de l'histoire, d'autres où on va être plus entré en compétition, d'autres à explorer l'univers et à essayer de s'y sentir dedans, entre guillemets, d'être en immersion ou quoi. Et en gros, il va dire que ce qui se passe dans une partie qui ne marche pas, c'est que les joueurs arrivent avec des envies différentes. Voilà, c'est ça, en gros. Hein. Et donc, pour se mettre d'accord, il y a le fameux contrat social où on va dire, bah non, ce soir, les gars, on fait des pecs et on tue des monstres. Donc, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Ton histoire d'amour avec la princesse, Julien, c'est pour demain. D'accord ? Demain, on fera ça. Mais là, ce soir, on tue des monstres, on gagne des pecs. Voilà, c'est ça, en gros, l'idée. Donc, et ça permettait, enfin, cette théorie permet de clarifier... en gros, ce pourquoi on est là autour de la table et de faire en sorte que les joueurs puissent construire des héros en adéquation avec l'attente commune, en fait, qu'il n'y ait pas de contradiction.
Il y a souvent, de plus en plus dans les jeux, on pousse quand même les gens à se réunir d'abord autour de la table et pas juste faire une fiche chacun de leur côté, voilà, et puis se mettre tous autour de la table, se dire bon, on se connaît, comment, on s'en fout, bon, mais. De créer des groupes de personnages qui ont des intérêts communs et de réfléchir d'abord à qu'est-ce qu'on veut jouer, comment est-ce qu'on veut jouer ensemble, etc. Parce que ça évite quand même pas mal d'aller dans le mur aussi. Ouais.
Oui, de plus en plus, on crée le groupe avant de créer les personnages de manière individuelle, de manière à s'assurer qu'il y a une cohésion. Dans certains types de jeux, puisqu'il y a aussi des jeux dans lesquels on aime bien jouer des traits, dans lesquels on aime bien se poignarder les uns les autres, mais fondamentalement, de plus en plus de jeux amènent à créer le groupe avant de créer les joueurs.
C'est pour ça que le héros de littérature et le héros de jeu de rôle, on est obligé de dire que le héros de jeu de rôle, c'est un héros de groupe, en fait. Il n'y a pas de héros en jeu de rôle. Il y a un groupe de héros. Enfin, on a envie de dire que... Alors bon, après, il y a dans ce groupe, dans les Chevaliers du Zodiaque, on va préférer Shiryu à Yoga, à machin. Super référence. Mais voilà, il y a un groupe de PJ malgré tout.
Pour faire plus moderne, il y a Avengers, quoi, où on voit bien un groupe de super-héros qui agissent ensemble.
Excuse-moi d'être vieux.
C'est un peu plus...
Lionel, je pense surtout à toi et à Isabelle aussi. Bon, vous avez tous écrit des choses, mais comment est-ce qu'on crée un bon héros séparément dans la littérature et dans le jeu de rôle ?
Dans le jeu de rôle, ce n'est pas le travail de l'auteur. Hein. Oui, dans le jeu de rôle, le travail, c'est de créer les conditions d'émergence d'un héros.
Il y en a quand même. Il y a dans les bases, il y a quand même souvent maintenant des nouvelles, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on crée un bon héros qui donne envie aux joueurs de jouer ou d'explorer le monde dans un jeu de rôle ?
C'est le bon. Il y a le mauvais héros, quoi. Le bon.
Bah, le bon héros, il tue les monstres. Le mauvais héros, il tue les monstres, mais c'est un mauvais héros. Je pense que dans Alors, on écrit pour... C'est global. Ma première réponse, j'aurais envie de dire, le héros de jeu de rôle, on le crée avant tout pour soi. Et en littérature, on le crée dans le but qu'il soit lu. Mais c'est une mauvaise réponse parce que ça débouche sur des trucs très compliqués sur le rapport à l'écriture. Est-ce qu'on écrit pour soi? Est-ce qu'on écrit d'abord pour les autres? On va pas entrer là-dedans parce que... Mais je dirais un héros de jeu de rôle, c'est avant tout quelqu'un qu'on crée pour soi, dont on sent qu'il va être intéressant et qui va, quelle que soit la démarche dans laquelle on est, ludiste ou narrativiste entre guillemets, qui va donner envie d'y revenir et de le faire progresser, que ce soit avec des pecs et du loot ou que ce soit avec une histoire, parce qu'il va avoir la place de grandir et qu'il va avoir cette place d'évoluer. Alors qu'un personnage de littérature, évidemment, je pense qu'on écrit avant tout pour soi, et parce qu'on écrit les bouquins qu'on aurait envie de lire et qu'on ne trouve pas, pour résumer de façon très, très schématique. Mais il y a aussi un côté, je pense qu'il y a quand même une conscience de « ce personnage est intéressant pour moi, donc il me donne envie de l'écrire », mais aussi... en quoi est-ce qu'il va avoir quelque chose qui va intéresser potentiellement un lecteur. Évidemment, on écrit pour soi, mais quelque part, il faut que l'attente qu'on a et l'envie qu'on a en tant qu'auteur se rencontre avec... Alors évidemment, c'est pas une science exacte, sinon on ferait tous des best-sellers, mais il faut que se dise que ce personnage-là, il va pas faire triper que moi. Il va pouvoir avoir un potentiel à un moment d'intéresser potentiellement quelqu'un quelque part. En quoi est-ce que ma démarche et mon envie va pouvoir potentiellement se rencontrer en quoi je pense qu'il va avoir quelque chose, disons, qui va avoir quelque chose d'universel en termes de thèmes, en termes de choses qui vont être potentiellement intéressantes pour quelqu'un, je l'espère en tout cas. En quoi est-ce que je vais pouvoir concilier ces deux attentes ?
Il y a Stéphane qui me lance des regards depuis tout à l'heure.
Alors, de manière très courte, je pense qu'il y a une différence qui est fondamentale, c'est que lorsqu'on crée un personnage de jeu de rôle, on va le créer avec l'intention, il doit être intéressant à jouer, il doit être intéressant à incarner. un personnage de roman en littérature, il doit être intéressant à suivre, à accompagner. Il doit être intéressant de suivre le périple qu'il va accomplir. C'est pas du tout les mêmes attentes. Et c'est vrai qu'il y a une attente qui est d'un côté individuel et l'autre qui doit être plus ou moins universel, de manière à intéresser le plus grand nombre, ou en tout cas le public que l'on vise.
Oui, c'est tout simplement, c'est effectivement, si avant, en espérant que le lecteur ait envie de suivre le personnage, déjà, il faut que l'auteur ait envie de le suivre. Donc,
c'est
la base.
Bah, bien souvent, le héros, il est intéressant parce qu'il a quelque chose en plus, et il est aussi intéressant parce qu'il a un défaut, une faiblesse de caractère physique, et quelque chose qui, généralement, va précipiter sa perte. C'est-à-dire que s'il a un défaut physique et que ça n'apparaît jamais dans l'histoire, ça n'a aucun intérêt. Je prends par exemple le héros archétypal qui est Achille. Donc Achille, c'est un gros bourrin, il est beau, tout ça, machin. Mais il a un problème. Il loot beaucoup. Mais il a il a une faiblesse physique qui va causer sa perte. Et en plus, il a une faiblesse morale, c'est qu'il est très colérique. Et si en fait Achille n'était pas colérique, il n'y aurait pas d'Iliade. Ce qui est quand même vachement important. Et je trace le parallélisme avec le jeu de rôle. La plupart des systèmes proposent donc d'incarner des personnages qui sont plus, qui ont plus de points, plus de pex, qui ont des points d'héroïsme, d'éclat, de ce que vous voulez. Et à la fois aussi d'avoir des personnages qui ont des faiblesses. Évidemment, le MJ, alors c'est pas toujours dit explicitement, mais évidemment, le MJ est très encouragé à se servir de cette faiblesse dans ses scénarios pour créer de l'histoire. Donc finalement, c'est un peu le même principe.
Il y a l'idée de la fonction, en fait, dans ce que tu signales, Lionel, et dans ce que vous reprenez. C'est-à-dire que, finalement, il n'a pas la même fonction, le héros, dans le jeu de rôle et en littérature. En littérature, il est là pour amener le propos de son auteur. Enfin, il est là pour vivre des histoires qui vont véhiculer le propos de son auteur. Alors que dans le jeu de rôle, il est là pour accomplir une fonction qui dépend du jeu dans lequel le héros a lieu. Si c'est dans un jeu, encore une fois, où c'est la compétition, il va avoir des compétences, du savoir-faire, il faut qu'il soit utile. Le héros, il faut qu'il soit utile. Dans Shadowrun, par exemple, qui est un jeu dans lequel l'humanité a évolué vers davantage de cybernétique, etc., de technicité, on va dire, le monde est très technique, c'est c'est hyper futuriste, bah, il faut que le personnage il soit utile à l'équipe de PJ. Ça va être le rigueur qui s'occupe des machines, de l'internet, machin. Ça va être le magicien qui fait de la magie pour permettre d'éliminer des forces magiques. Ça va être le mec physique qui permet de tabasser les flics et les éventuels problèmes que pourrait rencontrer la team de PJ. Donc il y a le côté, voilà, la fonction. Il sert à quelque chose. Et puis si c'est dans Vampire, Ramp, ça va être, bah, lui, il doit servir à créer des belles histoires, etc. La fonction, en fait, c'est ça qui va distinguer les deux.
Tout à fait, c'est ce qu'on retrouve tout à fait effectivement dans les jeux à classe et les jeux à carrière, etc. Et derrière ça, en fait, je pense qu'il y a aussi la question de conflit en narration. Le conflit n'étant en narration n'étant pas A veut te péter la gueule à B. Ça peut être ça, mais ça c'est la forme la plus basique, frontale de conflit. Ouais. Le conflit en narration, de façon très, très résumée, c'est un protagoniste veut quelque chose et il y a une résistance qui va s'opposer à ça. Et cette résistance, c'est ce qui va faire l'histoire. Alors, de façon très, très, très schématique, ça peut être j'ai un anneau à mettre dans une montagne, il va falloir que je traverse un pays occupé par des...
De manière très schématique, donc.
C'est toute ressemblance serait bien sûr... ouais. Mais également, le conflit, c'est... Tristan voudrait bien serrer Iseux, mais ça va être compliqué. Ça aussi, c'est un conflit en narration. Il y a une résistance qui s'oppose à ce que veut le personnage. Et quand on construit une histoire, et quand on construit plusieurs personnages ou un groupe de personnages, en général, ce qui est intéressant, c'est ça va être leurs interactions, et il va y avoir des conflits entre eux. Ils ne vont pas être d'accord, et de s'être sur l'objectif, sur les moyens à employer, et justement, comme tu dis, Romaric, de ces conflits qui vont être secondaires à l'histoire, va émerger quelque chose d'intéressant, va émerger une dynamique, va émerger le propos de l'auteur, justement. Alors que en jeu de rôle, en général, on crée effectivement de plus en plus le groupe ensemble et le conflit va se faire avec quelque chose qui est totalement extérieur et qui est ignoré des joueurs, qui va être le MJ, qui va être le scénario. Alors l'auteur connaît le conflit, donc son propos. Alors que le joueur, quand il le crée, il connaît vaguement, souvent il connaît l'univers, il a une vague idée d'à quoi s'attendre, mais
à quoi l'histoire, évidemment, de base, il ne la connaît pas.
Il crée son personnage avec toute une liste de conflits potentiels dont peut se saisir le meneur de jeu, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, logiquement, il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé avec il va se passer ça, ça et ça. Et en plus, comme c'est un groupe de personnages, c'est potentiellement plus varié, en plus, quoi.
Justement. Il y a quand même des conflits qui sont inscrits de base. Moi, je pense à... Enfin, je ne jouais pas, mais dans Warhammer, quand on crée un groupe où il y a un elfe et un nain, le conflit, il est assez facile et évident. En plus, il va être récurrent, comme dans une série. Et donc, il y a quand même des conflits qui ne sont pas tout tracés, mais que les joueurs esquissent mais dans les...
Libre au groupe, après, de le développer ou pas, de manière...
Ouais, mais s'il ne le développe pas, il ne joue quand même pas au même jeu.
Focaliser dessus, mais après, on peut tout à fait imaginer à Warhammer un groupe où un elfe et un nain... pour une fois, serait pas toujours en train de se vanner parce qu'ils seraient sauvés la vie l'un et l'autre. Enfin, voilà. Après, ça va être le groupe dans sa progression, dans son cheminement, qui va choisir d'axer plus ou moins vers tel ou tel conflit, effectivement.
Et puis, l'évolution vers la résolution de ce conflit fondamental entre elfes et nains peut être en soi un arc narratif intéressant pour les personnages.
Voilà, tout à fait.
Mais l'idée que charge à nous, en tant qu'auteurs et scénaristes, aussi, de créer un terreau fertile pour ces conflits, c'est-à-dire de créer des enjeux dramatiques, de poser des scénarios qui vont pas se limiter à aller bouter du monstre, mais qui vont aussi poser des problèmes moraux au groupe, de manière à ce que les joueurs autour de la table aient à discuter de la manière dont ils vont résoudre une situation, non pas de la meilleure manière, mais quel choix ils vont opérer face à une situation conflictuelle. La meilleure solution pour un scénariste étant de leur proposer seulement deux mauvais choix, entre lesquels ils vont devoir choisir le moindre mal. Ça, en général, ça entraîne de très grandes discussions dans les groupes.
C'est une question qu'on s'est posée pas mal sur la cellule, c'est... Finalement, est-ce que dans le jeu de rôle, il y a vraiment des héros ? Dans le jeu de rôle classique ? Parce qu'en fait, le héros, c'est celui qui a, par définition, une influence sur l'histoire. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Qui a l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'il va marquer son temps. Or, les personnages qu'on nous propose d'incarner dans un jeu de rôle ne vont pas forcément marquer l'histoire avec un grand H. En tout cas, n'ont pas quelque chose de forcément extraordinaire. Il y a un autre point. C'est que, étant donné que dans le jeu de rôle, souvent, dans les bases qu'on trouve dans le commerce, on nous propose des scénarios, une succession de scènes, ça veut dire que finalement, le personnage n'a pas forcément d'influence sur les scènes suivantes. Ou alors que le MJ, souvent, Julien, ce qu'on dit, c'est le MJ doit s'arranger pour que les joueurs... Bon, en gros, c'est pas eux qui écrivent l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, sur la forge, un truc impossible avant... le truc impossible avant le petit-déj. La contradiction du jeu de rôle. Qui est qu'on nous dit, vous allez incarner des héros, mais bon, en gros, vous allez aller là. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que si... Parce qu'un grand point rôliste, c'est de dire, le maître de jeu contrôle les décors et l'univers, et les joueurs contrôlent leur personnage, qui est le héros. Mais en fait, ça ne tient pas, ça.
Ça peut tenir avec certaines astuces scénaristiques. Non, et puis, il y a un autre élément, c'est que le héros, il est prisonnier de son destin dans la tradition.
Oui.
Le héros est souvent prisonnier de son destin. Pourquoi les héros de jeux de rôle seraient-ils différents sur ce point ?
Eh bien parce que justement, dans le jeu de rôle, on nous propose de l'interactivité.
Mais il y a de l'interactivité. Quand bien même il y a un scénario qui serait écrit, après, sur la linéarité ou non des scénarios, il y a un long débat à faire et il y a des méthodes pour écrire de manière à conduire les joueurs d'un point à
B. Est-ce que la linéarité des scénarios, Stéphane, c'est pas ce qui fait que dans le jeu de rôle, on n'a pas de héros ? Parce que justement, comme le scénario est linéaire, le personnage de jeu de rôle n'a pas vraiment d'influence sur l'histoire. Et donc, du coup, parce que dans le roman, on peut dire que c'est un héros. Parce que le roman, bon, bah voilà, il est écrit, il y a un début, il y a une fin, on sait que la dernière page, elle ne va pas changer en fonction de comment on le lit, ça c'est clair. Mais n'empêche que le héros influence l'histoire. Et l'histoire évolue vraiment avec le héros.
Ou parce pas, l'auteur... ou pas. Enfin, il y a des histoires où le héros se débat sans rien arriver à faire. Quoi, et
Oui, d'accord. Okay.
Mais après, je pense qu'un héros ne se définit pas forcément par sa liberté. Et en plus, comme disait Stéphane, tout au long du scénario, logiquement, même si effectivement le meneur est là peut-être pour un petit peu guider dans ce qu'il attend ou pas, il y a quand même une part de liberté. Ça dépend avec qui on joue et dans quel cadre, ça c'est clair. Et puis après, il y a aussi le fait de le côté un peu illusion, c'est-à-dire que oui, je sais que en gros, je suis dans une enquête, donc le but, ça va quand même être finalement d'arrêter le criminel. Je pourrais partir en Patagonie, fonder un élevage d'oies sauvages, mais voilà, c'est pas le but. Ouais. Et voilà, finalement, après, j'ai quand même l'illusion de je sais comment un peu ça va finir, mais je m'amuse en fait. Voilà, c'est comme l'espèce d'analyse avec on est tous dans un train, on sait très bien où on va, mais moi, je m'amuse avec la sonnette, quoi.
T'as quand même aussi une notion souvent dans certains scénarios de réussite ou d'échec. Tu peux réussir à avoir arrêté le culte qui va invoquer Azathoth et détruire le monde. Si tu l'as pas fait avant le jour 5 du scénario, bah game over.
Ouais.
Donc, et aussi avec les systèmes de gradation de PEX à la fin même dans le pansement trésor de base, est-ce qu'ils ont plus ou moins réussi, même dans une démarche purement ludique, tu peux avoir le côté, tu as plus ou moins réussi, tu as eu plus ou moins de PEX.
Mais c'est... Enfin, voilà. Je trouvais que c'était intéressant de signaler ce petit truc impossible avant le petit-déj, cette contradiction qui a été soulevée sur la force justement par Ron Edwards et Vincent Baker et ses petits copains. Et donc c'est l'idée que ben voilà, dans le jeu de rôle, on nous propose peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, à savoir que
mais,
ben, on peut pas.
Mais les deux, par contre, peuvent se retrouver, je trouve, dans une certaine part d'incertitude. C'est-à-dire quand on lit le roman, logiquement, s'il est plutôt haletant, on ne va pas vraiment savoir comment il se termine.
Ouais.
Au niveau du scénario, on a idée que logiquement, on pourrait réussir et arriver à ça ou échouer. Mais il y a toujours une petite part d'incertitude, même si elle est virtuelle. Il y a ce côté-là, je trouve, qui les rassemble, par contre.
Et si je veux vraiment faire mon auteur schizophrène paranoïaque, est-ce que le héros a bel et bien une influence sur l'histoire, puisque c'est moi qui ai décidé qu'il allait la changer?
Ben, tu veux dire pour le roman?
Ouais, c'est j'ai décidé qu'il allait changer l'histoire, donc de toute façon, je vais créer un monde qui va changer, donc finalement, il n'a pas le contrôle.
Ouais. Et puis, moi, fondamentalement, je ne suis pas d'accord, en fait. Il y a quand même des écoles, il y a l'école linéaire, l'école semi-linéaire, et puis il y a quand même le bac à sable.
Voilà, c'est ça, le bac à sable et le toboggan. Et c'est le fameux truc en jeu vidéo qu'on retrouve et qui, aujourd'hui, s'applique dans le jeu de rôle, à savoir qu'il y a deux types de scénarios, enfin, il y a deux types. Il y en a bien plus.
Voilà. Mais voilà.
Mais il y a deux types vraiment canoniques. Deux grandes écoles. Le bac à sable, où on prépare en gros les PNJ, leur motivation, machin. Puis ensuite, on lâche les PJ là-dedans un petit peu comme des rats dans une expérience de laboratoire. Ça, c'est le bac à sable. Et puis le toboggan, où là, on assiste. La chronique, la campagne de l'Orient Express, par exemple, on est dans un train, comme tu disais. On est vraiment dans un train en plus dans l'Orient Express. C'est ça qui est fou. C'est que voilà, on met les PJ de Cthulhu dans leur train. Et puis au fur et à mesure des haltes, ils vont vivre des trucs. Ils savent très bien qu'ils seront à la halte suivante. Ils ne vont pas faire l'Orient Express par les routes de campagne. Hein, ils vont y aller direct. Bon, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc là, il y a un toboggan. C'est les deux types de scénarios. Mais toi, le truc un peu avant le petit-déj, tu l'as jamais ressenti? L'idée, en tant que joueur, tu es là, tu es en train de faire ton scénario, puis tu te dis, mais c'est pas moi qui dirige, là, c'est le MJ, là. Et puis moi, je suis pas un héros.
Ça
en fait,
dépend du maître de jeu. Ça dépend du maître de jeu.
Et moi, j'ai eu des expériences avec des équipes où on était plutôt dans le toboggan et à un moment il y en a un qui prend sa massue, qui défonce le bord du toboggan et hop, qui saute. Voilà, enfin moi j'ai beaucoup joué avec des joueurs où on avait prévu un toboggan et où où en fait non hein,
le et le MJ n'a pas été vexé à ce moment là parce que
c'était moi, bah si, mais j'étais jeune, alors je m'en suis remise.
Ça dépend ce qu'on attend aussi comme sensation de jeu, quoi. C'est-à-dire que le toboggan peut provoquer un peu des sensations fortes, avec une partie certes sur des rails, mais rythmée, avec un climax, et voilà. Et la partie bac à sable va beaucoup être de la relation, de l'enquête. Il y aura peut-être un peu moins finalement de pêche, quoi. Donc
ça dépend ce qu'on vient chercher. En fait. La promesse au joueur n'est pas du tout la même. Dans l'un, le maître de jeu il doit garantir à ses joueurs qu'ils vont faire un sacré voyage. En prenant le train, en suivant les rails, il doit leur garantir que les enfants, vous allez voyager, ça va déchirer. De l'autre côté, il doit leur garantir une extrême liberté. Et c'est pour répondre à deux types d'attentes complètement différentes et qui dépendent réellement des mondes aussi dans lesquels on joue, puisqu'ils se prêtent à différents types de jeux.
Et puis c'est vrai que dans le train, comme tu dis, il y a des étapes. Et en fait, un scénario ou une campagne peut mélanger les deux, quoi. C'est-à-dire que quand le train fait une halte, il y a un moment bac à sable et hop, après on remonte dans le toboggan.
Tout à fait.
Il doit y avoir moyen de construire ça.
Dans l'Orient Express, c'est ce qu'on appelle un chapelet, c'est-à-dire que c'est...
Oui, comme les saucisses.
Il y a un bac à sable, puis c'est linéaire, puis c'est... Voilà, mais c'est ça, exactement, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, comme une saucisse, quoi. Mais c'est ça.
Et puis, c'est vrai, souvent, moi, quand je fais jouer des campagnes du commerce, c'est le sentiment qu'on part dans le train, et qu'à un moment, on ne sait pas trop, il y a un mec qui a pris une voiture, et qui a réussi à mener une campagne jusqu'au dernier scénario tel qu'il était écrit. Moi, j'y arrive jamais.
Mais
voilà, des fois, c'est les auteurs seraient surpris quand même de savoir ce qu'on a fait à la fin, quoi.
Oui.
Donc, je pense qu'on va laisser la parole au public s'il y a des questions.
Ah oui, déjà.
Parce que l'idée, c'est le personnage, il serait libre dans le jeu de rôle.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur justement le MJ, ça a été évoqué. De la même façon qu'on a pu comparer le héros de littérature au héros de jeu de rôle, j'avais l'impression qu'en fait le MJ pouvait être comparé ou pas à une instance narrative précisément qui aurait eu le devoir, le pouvoir de mélanger plusieurs points de vue parce que c'est pareil, c'est comme le chasseur, il y a les bons MJ et les mauvais MJ. Et c'est vrai que parfois, quand les parties sont intenses ou joyeusement bordéliques au choix, le MJ va se faire dépasser plus ou moins par les événements et par les réactions de ses joueurs. Et même s'il a prévu un scénar, il va y arriver des moments, vous l'avez dit, où il va devoir s'adapter. Et il arrive parfois en littérature que l'instance narrative, effectivement, là c'est un peu aseptisé, puisque en littérature, il y a un scénar, on va au début et on va à la fin. Et si jamais il y a une surprise, c'est un effet de scène prévu par l'auteur, a priori.
Voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans ton discours, on voit bien que tu compares le MJ à l'auteur.
Non, au narrateur.
Au narrateur, voilà, narrateur. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord, okay. Ouais, donc, ça, voilà. Je ne suis pas... Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit une bonne manière de voir les choses. Parce qu'il faut voir que l'histoire, dans un jeu de rôle... c'est le fruit de la somme de la table. C'est-à-dire que l'histoire, elle émerge de un MJ plus des joueurs, de cette équation-là, en fait. Elle émerge de la somme. Dans un roman, on a la relation entre un auteur et son héros. Bon, voilà, l'auteur, c'est l'auteur, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire.
C'est un démiurge. Il fait absolument tout ce qu'il veut. Il a le contrôle total.
Alors que l'auteur d'un jeu de rôle, lui, il va mettre des prémices. Et c'est les joueurs et le maître de jeu qui vont se saisir de la base, qui vont créer vraiment la partie de l'histoire. Et c'est ça le... Donc je ne sais pas jusqu'où ta comparaison tient.
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a une différence pour moi qui est absolument fondamentale et à la fois très basique entre l'auteur, narrateur et le MJ narrateur. C'est que l'auteur, quand on prend le bouquin, c'est le fruit d'une somme de travail et tout simplement... Un auteur, il peut retravailler autant qu'il veut.
Et puis, il faut pas oublier que les joueurs aussi, ils ont un pouvoir de narration. Ils ont le droit de dire « je me lève et je confirme ». Tu vois, je veux dire, ils ont le droit d'agir. Alors que l'auteur fait tout, il détermine tout, y compris les actions du héros. Alors que là, non, le narrateur, il raconte l'histoire, il pose le décor. Mais en théorie, justement, les véritables narrateurs, ce sont les joueurs. Parce que c'est eux qui racontent ce qu'ils font dans ce décor.
L'auteur peut revenir en arrière 1000 fois pour changer des éléments qui lui conviennent pas. Alors que quand un MJ, on l'a tous vécu, quand il dit bah, « non, mais ça prend 3 jours d'hyperespace pour aller de A à B, ça peut pas être 5 jours la fois d'après, si ça nous arrange. » Alors qu'en littérature, on peut retravailler les effets, etc. Même un auteur qui écrit au fil de la plume et qui aura une approche, mettons, plus bac à sable, il y a des auteurs qui travaillent comme ça. Moi, l'architecture beaucoup à l'avance, mais il y a des auteurs qui fonctionnent à l'envers, j'arrive, et qui, ils ont des personnages avec effectivement des prémices, un peu comme dans un bac à sable, et qui ensuite mettent ça ensemble, écrivent au fil de la plume, voient ce qui se passe, mais il y a beaucoup de retravail derrière pour arriver vers un effet fini. Et donc, ces phases de polissage qu'on a forcément pour arriver à un roman fini, c'est évidemment totalement impossible dans une partie de jeu de rôle parce que c'est une réalisation dans l'instant et qu'il y a un passif sur lequel on peut pas revenir.
C'est une réalisation commune.
Tout à fait.
On peut revenir sur la définition du jeu de rôle qui est fiction créée à plusieurs et sur lesquelles on n'a pas le droit de revenir sur ce qui a été dit précédemment. C'est ce que tu viens de dire.
Exactement. C'est la différence entre le théâtre et l'improvisation théâtrale. Quelque part.
Et après, on arrive malheureusement au paradoxe. Je suis désolé, je te coupe, je le fais en 2 secondes.
Hein. Il va jamais y arriver.
Mais après, on arrive au paradoxe de l'auteur de jeu de rôle qui se trouve à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'il doit créer quelque chose, peaufiner ses effets, raconter une histoire à la manière d'un auteur, tout en laissant quand même la liberté aux joueurs de s'exprimer, de prendre le contrôle de cette histoire.
Admirez-le,
donc c'est vraiment un travail entre les deux. C'est très particulier. Il y a un paradoxe.
Super dur.
Ça crée une attente énorme sur ce que je vais dire, alors que non. Moi, je voulais simplement rajouter le fait que il y a aussi, donc, on disait que le meneur de jeu peut pas forcément contrôler ses joueurs. Après, moi, je vais parler au niveau de la littérature d'un cliché, mais c'est que petit à petit aussi, des personnages, des fois, prennent un peu vie eux-mêmes et emmènent l'histoire, quand on écrit un roman, dans des directions qu'on n'avait pas prévues et qui bouleversent un peu. Donc, on se retrouve finalement avec un personnage qui prend un peu vie, qui ressemble quand même pas à un PJ avec la liberté du personnage joueur, mais des personnages qui prennent leur autonomie et qui vont conduire le récit aussi, quand même.
C'est l'idée de promesse narrative, qu'un personnage, au fur et à mesure, en prenant vie, va lui-même apporter, enfin, l'inconscient de l'auteur ou le personnage va apporter des éléments. Et ces éléments-là, bah, après... on est forcé de bâtir dessus, on fait des promesses narratives plus ou moins conscientes, et après on se retrouve en disant bah, il faut que je remplisse ma promesse.
Bonjour, moi j'aurais une autre question. Vous avez beaucoup comparé les héros de littérature et les héros de jeu de rôle, mais est-ce qu'un héros de littérature peut devenir un héros de jeu de rôle et réciproquement?
Oui, Julien l'a dit tout à l'heure lorsqu'il parlait d'explorer un canon. C'est-à-dire qu'on peut, on peut très bien décider, un joueur peut très bien décider d'incarner Harry Potter himself, quoi, en personne.
Et le mois prochain sortira Mournblade chez Sombre Projet. Et donc je t'invite à venir jouer le champion éternel avec ce jeu.
Non mais effectivement, il y a des passerelles, ouais. Il y a des passerelles qui permettent d'incarner un héros de littérature, de l'émuler dans une réalité ludique. Et réciproquement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnages de jeux de rôle qui après deviennent des personnages de romans ou de voilà. Dans
Alors, sachant que c'est quand même un article passer un personnage de jeu de rôle au personnage de roman, c'est souvent quand même un exercice éminemment casse-gueule.
Absolument. Ouais.
Ah, oui, mais
absolument.
Ça a très bien fonctionné, par exemple, avec les Chroniques de la Lune Noire. Bon, en bande dessinée, non pas en littérature, mais ça a très bien fonctionné. Ouais,
mais ça, souvent, ça implique un retravail, un certain recul que ce qui fait triper les joueurs autour de la table ne fait pas forcément triper le lecteur dans le vaste monde. Mais c'est parfaitement possible.
Mais ça fonctionne super bien aussi parce qu'en plus, comme on a tous vu le film avant, on est tous d'accord sur comment il doit être joué, etc. Donc il y a un contrat social, il y a un truc. Donc ça marche très bien. Enfin, ça peut aussi très bien marcher.
Dans un sens qui est plus facile que dans l'autre, mais
c'est sûr que quand tu vois Gandalf en train de faire ses tartines le matin, c'est sûr que ça lui enlève un petit côté héroïque, quoi. C'est clair. Quand tu vois par exemple c'est Gandalf dans la Terre du Milieu, où tu vois les caracs du perso, c'est-à-dire que tu peux l'incarner, tu peux le jouer. Il est dedans, il est dans la base. Et tu vois les caracs, c'est appeler des oiseaux. Enfin, il a des caracs toutes pourries, alors que dans le film il est super classe. Enfin, tu vois, c'est bon. Du coup, tu te retrouves avec là, c'est casse-gueule. Mais par contre, sur la culture commune. C'est nickel, quoi. Là, tu te retrouves justement avec un jeu qui va être super fluide parce qu'on va pas perdre de temps à décrire les vaisseaux. C'est bon, je te dis, un vaisseau spatial, tu vois le croiseur interstellaire, t'es dedans, quoi. Et puis en plus, on a la musique. On a la musique du film. On a Williams qui nous a fait les musiques et tout. Donc on peut se mettre dans l'ambiance, c'est nickel.
Ça introduit la contrainte de gameplay, en fait, tout simplement.
Plein de questions.
Bonjour. Moi, ma question, c'était sur le regard sur le héros. Est-ce que la complexité de définir le héros dans le jeu de rôle vient pas simplement du fait qu'il y a plusieurs regards ? Il y a le regard du personnage vu par le joueur, par les autres joueurs tels qu'il est montré, et le MJ qui en sait forcément un petit peu plus, alors que dans la littérature, on lit tous le même livre, et donc il y a toujours les mêmes mots, en fait, pour tout le monde.
Absolument.
Moi, j'ai envie de dire, on ne lit pas tous le même livre.
Ah oui, bon, ça c'est vrai.
Je suis assez d'accord.
Mais on lit tous les mêmes signes dans le livre.
Oui.
C'est-à-dire, il y a quand même un truc qu'on partage en commun.
Oui, tout à fait, il y a une base commune, mais l'imagination du lecteur, il fait 50% du boulot.
Absolument. Mais je suis d'accord avec son point de vue. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de héros au même sens que la littérature, dans le sens où là, le héros, il y a la somme de la table, il y a la manière dont le joueur incarne son héros, il y a le MJ, il y a plein de choses.
Tout à fait.
Oui, bonjour. Vous avez identifié le héros au PJ. Qu'en est-il du PNJ ? Parce qu'on en a assez peu parlé aujourd'hui.
C'est une si bonne question qu'elle nous laisse sans voix.
Non,
mais c'est un problème qui est toujours très ennuyeux, notamment dans des jeux qui sont adaptés de grands bouquins. Quand on met les joueurs en relation avec un grand personnage, faut savoir doser son effet, parce que si on les écrase, c'est quand même... Mais d'un autre côté, il y a quand même une aura autour du héros en question. Alors, il faut arriver à la sauvegarder. Enfin, c'est très compliqué quand même.
Je ne sais pas si tu t'entendrais avec moi, Isabelle, pour dire que le PNJ, c'est ce que le PJ dans le jeu de rôle pourrait devenir. Il y a un côté, le gros PNJ, celui qui écrase justement.
Non, pas forcément. Moi, je pense par exemple que le problème va se poser sur les jeux historiques. Ou par exemple, on va se retrouver être dans l'entourage d'Arthur. Arthur est finalement le personnage principal et c'est le héros par excellence. Et la grande complexité pour le maître de jeu et pour les scénaristes de la gamme, puisqu'il y a une grande campagne qui va suivre l'ensemble de la gamme, c'est quel rôle et quelle place donner au personnage des joueurs pour qu'ils deviennent réellement des héros, mais sans éclipser le personnage principal qui fondamentalement restera Arthur, qu'on le veuille ou non, à moins d'accepter de changer l'histoire, ce qui n'est pas leur objet, puisqu'ils sont dans une gamme historique. Ouais. Donc c'est un vrai problème et qui se pose sur, je crois, tous les jeux historiques, où les personnages vont avoir du mal à se faire leur place.
Ou d'univers dédiés comme Star Wars, etc., ou le jeu de rôle de la Terre du Milieu. Il faut essayer de profiter des zones d'ombre, quoi. C'est-à-dire que il y a souvent c'est des mondes suffisamment vastes qui vont permettre de vivre ses propres épopées, quoi.
Je pense que le PNJ dans ce cadre-là est tout simplement un accessoire narratif, c'est-à-dire comment moi, PJ, je vais me placer en regard par rapport à ça, et en quel rapport je vais avoir avec cette figure-là, et en quoi ça va me mettre en valeur ou m'écraser. Quelle histoire ça va créer ? C'est un miroir, en fait.
Exact.
Ah, la musique est là pour nous dire que
ça veut dire dégager. Merci aux Utopiales d'avoir mis du jeu de rôle.
Merci beaucoup.
Merci aux Utopiales.
pour ceux qui ont encore des questions, on va très probablement traîner près du bar pendant encore un moment.
On ne traîne pas, on fréquente le bar.